Merci. Alors Jean-François Balducci, oui, comme échymose, c'est pour ça que c'est... Alors, je vais essayer d'être... Je vais peut-être être un peu moins concret, mais je vais essayer de vous faire un peu rêver quand même. Alors, Étienne m'a dit, on n'est pas dans une approche du développement, enfin de la transformation punitive. On est dans une approche constructive, positive. Ça tombe bien parce que c'est l'approche dans laquelle s'inscrit et l'Europe et la France à travers un certain nombre de mesures stratégiques qui sont engagées. Alors je reviendrai notamment tout à l'heure, je parlerai du numérique, des EDIH, Digital Innovation Hub, mais je voudrais commencer par dire, vous avez parlé de France 2030, hein, juillet de 2030, de 2050. Au niveau du gouvernement en France, on est parti sur un objectif déjà de France 2030. Comment transformer notre économie pour la rendre plus compétitive, plus durable et plus souveraine. Et, bien entendu, en se conformant au maximum aux critères d'exigence de cette transition énergétique écologique. En gros, c'est, je vous donne quelques chiffres globaux, 54 milliards d'euros consacrés à ce plan France 2030, dans des secteurs qui sont liés justement à la nécessité d'innover et d'industrialiser nos innovations, donc produire en France, retrouver cette souveraineté, dans des domaines très variés, l'industrie, le transport, la mobilité, la santé. En fait, on résume par mieux vivre, mieux produire, mieux comprendre. La recherche fondamentale aussi, très très important, parce que bien évidemment, tout part de là pour ensuite avoir des technologies de rupture qui vont engendrer des innovations aussi dans le domaine des usages. Donc c'est un plan ambitieux qui va avoir aussi comme objectif de consacrer la moitié de cet argent à de la décarbonation et de ne pas soutenir des solutions qui ne soient pas dans le domaine durable. Donc on est vraiment sur un objectif, hein, je répète, d'innovation, souveraineté et développement durable. C'est un plan très séduisant. Mais dans notre pays, et comme dans tous les pays, c'est pas dans un processus top-down que ça suffit. On peut pas faire fonctionner une société en disant « voilà ce qu'on va faire, tout le monde est aligné et on avance ». Il y a un besoin, finalement, de transformer en profondeur la société. Et pour ça, vous savez, c'est un peu... Je vais emprunter, d'autres l'ont fait avant moi, mais la métaphore de la métamorphose. Vous savez, quand la chenille se transforme en papillon... Il y a toutes les cellules imaginales qui sont là, dès le démarrage, prêtes à rentrer en fonction. Et en fait, quand ça démarre, pour constituer finalement la structure du futur papillon, il y a tout le système immunitaire qui se met en branle et qui pour les détruire. Donc il y a vraiment une résistance très forte. Et heureusement, en s'agrégeant, en persévérant, elles finissent par prendre le dessus et la chenille devient papillon. Donc c'est un peu ce qui se passe. Et dans un pays comme le nôtre, qui est très centralisé, vous le savez... c'est pas facile. Alors, ce qui est important, et l'organisme que je représente plaide pour une structuration des écosystèmes. Et vous tous ici, vous représentez les forces vives d'un écosystème qui permet justement de conjuguer cette procédure top-down et une vraie initiative, des initiatives bottom-up, qui permettent eh bien finalement de transformer les choses. Alors ça passe, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a quand même le souci de France 2030 de s'appuyer beaucoup sur l'innovation qui vient des start-up, des PME et des ETI. Ça tombe bien, je crois que c'est un peu le public qu'on a ici aujourd'hui. Donc, mais ça aussi, ça ne se décrète pas, vous le savez mieux que moi. Donc il est important de faciliter la naissance de ces entreprises, de ces jeunes start-up. Donc on a aujourd'hui beaucoup d'éléments. Je sais que dans la salle, je ne le vois pas, mais il y a Cyril Chapon de la SAT West Valorisation. Donc on a... Cyril, tu es là. Voilà, on a des technopoles, des incubateurs, des pôles de compétitivité. Mais tout ça, c'est bien parce que c'est quand c'est légitimé par le terrain, par le territoire, par les acteurs de la recherche, les universités, les grandes écoles, les établissements de recherche, par les entrepreneurs, les entreprises, que ce soit des jeunes start-up qui démarrent, qui accélèrent, ou des PME plus traditionnelles et des ETI. Donc ça, c'est un peu le rôle, finalement, d'un écosystème, de rendre ce cercle vertueux. Et c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Et je peux vous dire, parce qu'il n'y a pas que dans l'Ouest qu'on travaille comme ça, c'est le cas dans toute la France, dans toute l'Europe, et au niveau international, on travaille en réseau, on voit ce qui se passe ailleurs, et on voit des endroits où il y a tout pour réussir, mais ça ne marche pas, et des endroits où il y a peut-être un peu moins, mais ça marche bien. Donc c'est vraiment cette notion d'écosystème, là je pense que je prêche devant un parterre convaincu, mais c'est absolument essentiel, et ça repose aussi sur un partenariat très fort public-privé. Dans l'Ouest, on a la chance d'avoir des régions, des métropoles, des universités, des chambres de commerce qui travaillent ensemble et qui, dans la durée, et qui permettent de nouer des partenariats forts avec des entrepreneurs, des entreprises, des partenaires comme Layton, et qui nous accompagnent, nous, au niveau d'Atlantpol, sur beaucoup de sujets. Et c'est ça qui permet, finalement, d'avoir une cohérence et de suivre le démarrage d'entreprises dans la durée. Alors, je peux vous donner quelques exemples de ces domaines d'activité, parce qu'on a pas mal, on a la chance dans l'Ouest de ne pas avoir qu'un seul moteur. On n'est pas uniquement sur l'énergie ou sur la santé ou sur le numérique. Le numérique est partout. Mais on a beaucoup de domaines d'excellence et il faut les faire fructifier. Alors, ça peut être dans le cas, par exemple, je crois que c'est un client de Layton, d'après ce que m'a dit Étienne, la ruche à vélo. Je prends cet exemple, ce sont des jeunes diplômés qui ont développé un système de parc à vélo, sécurisé, fermé, facile d'accès et pour retirer ses vélos. Bon, l'entreprise est née il y a quelques années et ils sont en train d'installer, ils en ont installé déjà dans pas mal de villes en France. Et ça, c'est vraiment important par rapport à la mobilité. Dans le domaine, puisque j'entends le vent souffler un peu, on a un spin-off de l'école centrale de Nantes qui s'appelle Farwind. Vous avez entendu parler des premiers parcs d'éoliennes offshore, mais là c'est un concept encore plus innovant. C'est, plutôt que d'avoir une éolienne offshore fixe, c'est une flotte de bateaux qui navigue encore plus loin des côtes, là où le vent est plus laminaire, et qui permet finalement de capter des vents intéressants pour produire de l'énergie, la stocker à bord. Sous forme, ils sont en train de démarrer, enfin ils ont démarré déjà il y a 2-3 ans, batterie, hydrogène, etc. Et ensuite rapatrier à terre. Et ça, c'est une spin-off, c'est de la deep tech, c'est aussi très soutenu dans le cadre d'un projet comme France 2030. Mais vous avez aussi une autre innovation de rupture, qui est vraiment de rupture complète, parce que nous, quand on a découvert ce projet, on était assez stupéfaits, c'est l'utilisation des ondes sonores pour produire du chaud ou du froid. Donc en fait, vous savez que dans les pompes à chaleur, vous utilisez des gaz réfrigérants que vous mettez en pression, compression, et ça produit, c'est un gros, ce qu'ils appellent le global warming power, et c'est pas bon pour la planète. Et une équipe de chercheurs a développé un système qui permet d'utiliser les ondes sonores pour comprimer un gaz neutre, et finalement avec le même résultat, la même efficacité. Alors, on en est au stade du prototype, la théorie... Et elle est prouvée. Maintenant, il faut passer au stade industriel. Donc c'est, là aussi, c'est de la deep tech, donc c'est long. Et là aussi, il y a un soutien très fort de l'écosystème et aussi au niveau national. Et là, bien entendu, c'est tout bon pour la planète. Donc si vous voulez, je pourrais aussi vous parler en termes de... Quand on dit mieux vivre, c'est aussi on parle de l'alimentation durable, de la santé. Le fait demain d'avoir une médecine... plus personnalisé grâce au numérique, grâce aux recherches, aux progrès qui ont été faits en matière de biologie, va permettre demain de finalement de plus gaspiller tous les médicaments qu'on a pu gaspiller, d'avoir des traitements adaptés et plus avec des prescriptions plus précises pour mieux soigner, mieux guérir, mais de manière plus sobre ou avec un peu plus de satiété, hein, c'est-à-dire on va pas dépenser plus qu'il ne faut. Et puis c'est aussi les problématiques de prévention, une alimentation durable, une meilleure nutrition, ça permet d'être moins malade, enfin tout se tient. Donc ces éléments-là, si vous voulez, ça c'est important, mais il faut pas croire que parce qu'on l'a décidé à Paris ou à Bruxelles, ça roule tout seul. C'est un combat quotidien pour combattre les cloisonnements, les effets de silos. C'est pour ça que, notamment, en 2005, ont été créés les pôles de compétitivité, parce qu'on est dans un pays où les grands comptes ont été longtemps, on disait, les donneurs d'ordre, et puis il y avait les sous-traitants, et il y avait quand même une relation un peu hiérarchique ce vocabulaire. Et en fait, l'innovation, elle n'est pas que côté start-up, elle est aussi dans les PME. Et pour que des PME innovent, parce qu'elles ont souvent les solutions innovantes. On parlait d'Airbus tout à l'heure et de ses sous-traitants. L'innovation chez Airbus, elle est beaucoup chez les sous-traitants aéronautiques. Et donc, il faut encourager les grands comptes et les PME à travailler ensemble, souvent avec des cultures différentes, parfois adossées à des laboratoires. Donc, il y a eu une volonté d'encourager ce phénomène de recherche collaborative innovante pour, là aussi, faire progresser l'innovation. Alors, je vais vous donner juste un exemple. Bon, il y a un des pôles de compétitivité de l'Ouest, qui est le pôle mer Bretagne-Atlantique, qui est un pôle sur, comme tous les pôles de l'Ouest, hein, il y en a dans le numérique, dans la santé, dans l'industrie ou dans la mobilité, ils sont sur les deux régions, Bretagne et Pays de la Loire. Ce pôle mer a récemment labellisé un projet qui s'appelle, que je crois Layton connaît bien, le projet DIGVEU, qui est porté par, conjointement par le groupe Legendre, ETI Bretonne et JEPS Techno, start-up nigérienne, et c'est SMH des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, et Ifremer. Et ce projet avait pour but de développer une digue, un caisson dans une digue à énergie positive. Donc vous savez, aujourd'hui, les digues, elles reçoivent l'énergie des vagues, de la houle, et puis l'énergie, elle est perdue. Là, c'est un projet, alors le prototype a été mis à la mer en juillet, donc il n'y a pas longtemps, et le but, c'est effectivement de récupérer cette énergie, là encore, de la stocker, et de pouvoir la restituer, soit au port. Alors, ils ont été lauréats d'un appel à projet Port du Futur, là aussi, dans le cadre de France 2030. Et ça peut servir au port de commerce, port de pêche, port de plaisance, et donc petit ou grand port. Ça peut, bien entendu, fournir de l'énergie pour le port lui-même, mais aussi, dans certains territoires, pour finalement l'Interland autour du port. Donc, voilà un projet intéressant, mais j'en parle parce qu'il illustre, finalement, un travail collaboratif entre trois équipes qui sont de cultures très différentes. Un groupe de génie civil, un SMH des chantiers d'Atlantique avec une équipe d'ingénieurs très tournée vers les problèmes d'énergie, et puis Ifremer. Voilà. Et ça, des exemples comme ça, il y en a d'autres. Mais il faut que ça soit soutenu dans la durée. Et la difficulté, c'est toujours ça, c'est de céder à des effets de mode. Et souvent, lorsque on a, que ce soit au niveau des États ou au niveau de l'Europe, on a beaucoup d'effets de mode. On a eu les incubateurs du ministère de la Recherche en 1999. Donc Atlantpol, que je dirige, est la structure qui porte ce système d'incubation en Pays de la Loire et donc qui favorise l'essaimage d'entreprises très innovantes à partir de la recherche. Et après, il faut bien entendu favoriser leur croissance. Hein, c'est un deuxième problème. Mais il y a eu aussi des sujets européens avec d'autres labels. Puis récemment, alors il y a Simon Boisserbe d'Atlantpol qui est dans l'auditoire. On a répondu à un appel à projet européen pour faire partie d'un des 100 European Digital Innovation Hub qui vont permettre d'accélérer la transition digitale. Parce que la transition digitale au niveau européen, c'est très important dans tous les domaines. Mobilité, industrie, santé, tourisme, bref. Donc ça, on a concentré et on a surtout simplifié. Autre objectif de l'écosystème, tous ces différents labels, on ne veut pas que les entrepreneurs s'y perdent. On veut que pour les entrepreneurs, ce n'est pas un guichet unique, c'est un réseau unique à guichet multiple. Avec la SAT, avec les autres technopoles, avec les pôles, on se parle et on fait en sorte que pour l'entrepreneur, le chemin soit toujours le plus simple possible. Et alors, je terminerai juste, parce que je crois que j'arrive au bout, sur un dernier exemple qui montre aussi que finalement, des fois, là, j'ai parlé de décarbonation. Alors, on parle beaucoup de décarbonation dans le domaine aérien, et France 2030 a mis beaucoup d'argent là-dessus. Et on est en train aujourd'hui, avec un entrepreneur nantais, Erwan Jacquin, d'essayer de pousser France 2030 et le SGPI, le secrétaire général aux investissements d'avenir, à s'engager aussi très fort dans la décarbonation du secteur maritime, du transport maritime. Parce que c'est important, vous savez que les marchandises sont essentiellement circulent essentiellement sur mer, et il se trouve que nous avons accompagné à Atlantpol un projet qui s'appelle Zéphyr et Boré, qui est en train de construire un bateau qui s'appelle Canopée, donc un cargo à voile. Alors à l'époque, on disait mais cargo à voile, alors c'était des jeunes diplômés de l'école submaritime à Nantes, Saint-Malo, Marseille, Le Havre, mais eux ils étaient à Nantes. Et en fait, leur projet a maturé, et il arrive aujourd'hui à maturité, tellement à maturité, que le bateau, il est en fin de construction dans un chantier en Pologne, il est déjà loué par Ariane Espace pour transporter les tronçons de la future fusée Ariane du Havre vers Cayenne, pour Kourou, prochainement. Et donc là, ça c'est intéressant, parce qu'il y a aussi, c'est du tout ou rien, on peut avoir, enfin c'est pas du tout ou rien justement, je veux dire, on peut avoir des cargos entièrement à voile, et puis on peut aussi mettre des voiles sur des cargos existants, et c'est déjà le cas, pour réduire la consommation d'énergie fossile et du fuel à bord du bateau. Alors il se trouve que nous, on fait rien pour rien, avec Yves Gillet, Kéran, on a dit, tiens, on va utiliser ce bateau pour essayer de lancer un appel à solutions en Europe, appel à solutions pour la planète, dans différents domaines, mobilité, industrie, logement, etc. Et donc, on est en train, en mobilisant l'ensemble des écosystèmes européens, de faire cet appel à solutions, et quand on aura les 100 meilleurs, eh bien, ce bateau transportera ces solutions de Saint-Nazaire à Copenhague, siège de l'Agence européenne de l'environnement. Vous voyez, donc on essaye d'utiliser aussi la voile, qui est un vecteur d'innovation fort en termes de transport maritime, mais aussi comme ambassadeur du développement durable et de cette transformation énergétique et écologique qui ne fait que commencer, mais qui est absolument essentielle et qui prendra du temps, mais qui doit être désirable. Et je pense que ce que vous faites aujourd'hui va dans ce sens-là, et je vous en remercie.
Merci beaucoup. Merci.